poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une émission de Boule Vanille, votre rendez-vous estival sur Canal B. Et oui, l'été aussi, on reste curieux sur le 94 MHz. C'est une émission qui vous est proposée tour à tour par Louise, Lucie, Morgane, Quentin, Iris, quelques bénévoles et moi-même. Et aujourd'hui, on sera curieux de la programmation de la Route du Rock à retrouver à Saint-Malo et au Fort de Saint-Père du 14 au 17 août. On sera curieux du théâtre et du spectacle vivant en général grâce à ce premier épisode d'une série proposée par Soisig Le Bail, Les métiers invisibles du spectacle vivant. Aujourd'hui, elle parle avec Tuc Dual Trémel, régisseur général plateau au TNB. Et puis, Ronan Chaplin a été curieux d'un morceau de choix. Il a parlé avec Jean-Marc qui nous parlera de son morceau de choix. Bonne émission à toutes et à tous. On part à la Route du Rock. Directement dans le vif du sujet avec cet extrait d'un titre de Chalk, groupe que vous pourrez découvrir en live si vous ne les avez jamais vus dans la région, mais peut-être que si quand même, ils joueront à la Nouvelle Vague de Saint-Malo pour débuter la Route du Rock été numéro 32 le 14 août. Ça se déroulera jusqu'au 17 août, vous le savez, des concerts à la Nouvelle Vague, à la plage de Bon Secours, au Fort de Saint-Père, une conférence, une expo. C'est la Route du Rock, on est avec François Floret, programmateur, directeur de la structure. Bonjour.
Salut.
Toujours proposé par Rock Tympan, ce festival qu'on aime bien ici sur Canal B, évidemment, évidemment. La programmation est toujours assez proche de celle qu'on vous fait découvrir et puis nous permet à nous autres de découvrir des choses qu'on n'a pas encore vues, donc c'est parfait.
Oui, bah c'est effectivement, t'as bien résumé, on aime bien voilà, les nouveautés. Moi personnellement, je m'embête vite, donc j'ai envie de. Voilà, je suis assez boulimique de nouveautés. Et bon, après, on ne boude pas notre plaisir aussi quand on a des jolis noms.
J'entends bien, parce que c'est vrai qu'on en voit certains qui peut-être évoquent des souvenirs émus. J'entends Slowdive par exemple, j'entends The Kills, je me dis, ou Étienne Dao, Blonde Redhead. Là, on est en territoire de connaissance, et ça fait plaisir de les rajouter à la longue liste des groupes qui jouent à la Route du Rock.
Bah, c'est, oui, c'est ça, la formule, elle est là. Hein, c'est. Bon, il y a R et José González le samedi. Il y a, on va dire, les classiques qui sont évidents chez nous. Et puis, avec aussi les nouveautés qui suivent, on va dire, ces grands noms. Je pense à Bar Italia, qui est assez proche finalement de Blonde Redhead, hein, quelque part. On a les Nation of Language, qui a un espèce de retour aux années 90, côté électro, à New Wave, comme on aimait bien à l'époque. Voilà, il y a quand même une continuité dans la présentation des artistes. Et puis d'autres, effectivement, qui sont un peu plus sauvages, un peu plus nouveaux, plus hip-hop. On aime bien surprendre.
Chalk, qu'on les écoutait à l'instant. Parmi les noms que tu as cités, évidemment, certains en tête depuis très longtemps et on écoute encore avec plaisir leurs albums. Chalk, c'est une découverte plus récente en ce qui concerne la Route du Rock ?
Bah, ça fait partie, oui. Ça, j'ai l'impression qu'il y a une scène irlandaise actuellement assez radicale et qui est très intéressante. Il y a Guerriers aussi qui est pas mal. Il y en a plein d'autres. Et moi, je les ai vus personnellement au Transmusical. Ils ont fait le job. Ils étaient un peu le groupe attendu. Ils ont vraiment renversé la salle avec leur je sais pas comment dire techno, espèce de techno un peu cold dark. C'est assez dur mais ça me parle forcément et ça parlait à tous les anciens un peu comme moi et voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est une espèce de d'héritage de ces moments cold ou un peu new wave des années 90 et ça fait du bien c'est évidemment revisité donc c'est un peu le groupe je pense qu'il faut découvrir le mercredi à la Nouvelle Vague. Venez nombreux parce que ça va être une grosse claque je pense.
Vous y verrez aussi notamment les Ghost Women, les Anglais qui pratiquent la pop de plusieurs façons, un peu garage, complètement indie par d'autres moments. J'ai pu les voir récemment, c'est vraiment super en live, donc ne les ratez pas. Et puis le troisième groupe,
ML Bush. Alors on est plus sur pop folk, quelque chose d'assez intimiste. On voulait démarrer tout doux et donc ça sera le cas, ce sera une progression dans la soirée assez cohérente.
On n'écoutera pas évidemment tous les artistes présents à la Route du Rock, vous retrouverez ça sur le site laroutedurock.com. Avant de se diriger vers le Fort de Saint-Père, évoquer peut-être la situation des festivals en ce moment. Certains arrivent toujours à tirer leur épingle du jeu, le Hellfest évidemment pour une programmation ultra niche quand même, mais qui commence à s'élargir, peut-être pour grossir le public. Les transmusicales fonctionnent tous les ans. Est-ce que depuis quelques années, la crise Covid, les crises diplomatiques, la guerre donc, et puis économiques font que c'est un peu compliqué quand même de s'assurer d'un public conséquent sur une édition comme celle-là?
Ah bah oui, de toute façon, je crois j'en parle tous les ans. Ça ne s'arrange pas. Ça, c'est évidemment de plus en plus compliqué. On a même certaines subventions qui baissent, alors que c'était pour nous des socles vitaux. Donc, mais personne n'est responsable. C'est aussi chaque collectivité qui est partenaire a de bonnes raisons qu'on accepte parfaitement pour. Voilà, baisser un petit peu parce que la conjoncture fait que tout le monde prend cher et donc c'est à nous de trouver des solutions pour survivre parce que c'est le mot. Et donc moi je crois beaucoup dans l'investissement privé, faut pas avoir peur de le dire. Donc ça passe par du partenariat bien sûr relativement classique à du mécénat parce que le mécénat c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant, on va dire. Une entreprise qui paye des impôts n'en paiera moins si elle s'investit sur un événement culturel. Il y a beaucoup de sociétés qui ne le savent pas et qui pourraient vraiment faire profiter et les clients et les salariés à ce genre d'événement. On les chouchoute et ils voient des beaux concerts, ils découvrent, ils passent un bon moment. Et en plus, le patron, il a moins d'impôts à payer à la fin de l'année. Donc pour moi, c'est la meilleure des situations. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. Il faut faire des réductions de coûts aussi. On essaie de vraiment freiner des cas de fer là où c'est possible. Je vais pas tirer sur les artistes parce que c'est eux qui nous font vivre. Mais il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a beaucoup de choses qui font que ça coûte de plus en plus cher de faire des artistes sur un festival. Donc on fait plus attention peut-être maintenant sur ce qu'on appelle le backline, sur qu'on prend moins en charge financièrement les hôtels, etc., pour réduire un peu l'ardoise. Et puis mais il faut faire très attention parce que il y a des choses qui sont essentielles dans l'organisation d'un festival qui garantissent la sécurité et le bien-être des festivaliers, l'accueil. Donc ça, on n'y touchera jamais. Mais après, il faut essayer de trouver justement les leviers qui permettent de baisser sans. C'est comme l'impôt, sans trop élever le prix du billet, même si on l'a élevé un petit peu cette année parce qu'on n'avait pas le choix.
Mais on n'assistera jamais à quelque chose comme la plage totale de Bon Secours ou comme ça.
Je trouve que le sponsor est bien trouvé. La Moco Cadiz, on pourrait l'appeler aussi. Ça peut être pas mal.
Ça n'aura pas lieu.
Non, non, non. Do you feel the waves that fall upon your face? Do you feel the weight? Do you see the rise? Do you feel the climb? Do
La Route du Rock, collection été, numéro 32, du 14 au 17 août à Saint-Malo, au Fort de Saint-Père aussi. À l'instant, Enola. Enola, qui est une des artistes féminines invitées. Vous faites de plus en plus attention, j'ai l'impression, à l'essayer d'atteindre une parité homme-femme dans la programmation. Enola, c'est aussi un coup de cœur qui est un peu dans un air du temps post-punk qui tabasse aussi un petit peu et qui est un peu froid quand même.
T'as tout résumé. On vise effectivement à parité et après on met pas de quotas. J'insiste à égalité de talent. Il s'agit pas de faire du sectarisme.
Je sais pas, du genre washing.
C'est un débat qu'on a régulièrement et on est très serein par rapport à ça. Je pense que il y a autant de femmes qui ont du talent que d'hommes et c'est même pas un débat en fait. Il faut juste qu'on les croise. Et Nola, c'est une belle histoire parce que. En fait, j'avais juste reçu une pub pour la sortie de son single et du coup, je me suis mis à écouter un peu ce qu'elle faisait. Je connaissais pas trop. J'ai pris une énorme claque et immédiatement, j'ai appelé l'agent pour lui dire. C'est vraiment les belles histoires quand t'es programmateur d'un festival. Tu prends une claque et c'est très simple en fait. Tu écoutes, tu réécoutes, tu fais écouter. Chaque fois, les gens te disent mais putain, mais c'est quoi ce truc-là? C'est vachement bien. Que ça soit ta chérie, tes amis et à un moment, tu te dis mais c'est évident en fait. Il faut absolument que ce soit chez nous cet été. Et donc, c'est une Australienne qui, je crois, maintenant a déménagé en Angleterre. Je crois qu'elle est sur Londres. Donc, c'est pour ça qu'elle est plus facile à faire jouer en Europe cet été. Et que tu l'as bien résumé, c'est une espèce de post-punk, rock, un peu désespoir. Il y a beaucoup de désespoir dans le chant. Il y a une voix incroyable, il y a des mélodies. Sur la première sortie de, je sais plus, il y a combien de 5 titres, il y a quasiment que des tubes, je trouve. C'est imparable, c'est immédiat. Je pense que ouais, les gens vont prendre une grosse claque, en fait. Et ça donne envie presque de la faire jouer encore, parce qu'on se dit, en ouverture, c'est dommage, il n'y aura pas assez de monde à la voir.
Elle n'est peut-être pas encore si connue du grand public, mais j'imagine que pour une artiste en émergence comme ça, être ou partager la même scène que Kate Tempest, Slow Dive ou The Kills, ça va lui plaire aussi.
Oui, on la voit. De toute façon, sur les réseaux sociaux, on la voit. Elle nous fait des petits cœurs à chaque fois qu'on publie un truc. Elle nous suit. Je crois qu'elle est très contente.
Parmi les découvertes, je ne cite pas évidemment les Belges de Soulwax. Vous les connaissez sans doute, qui font de belles choses aussi en remix en ce moment sur des jeunes talents. On se souvient de Wet Leg qui a été remixé par Soulwax, et puis des choses plus récentes encore, Fontaines DC, il me semble. Une valeur sûre de la scène un peu crossover qui peut aller dans plein de sens en fait.
Ouais, bah c'est les Too Many DJs, donc ceux qui connaissent, c'est bourré de talent, c'est bourré de références, et donc sur scène, je crois qu'ils ont passé l'âge de faire des redites, et ils ont toujours eux aussi à l'esprit de se réinventer. Et là, ils viennent avec un nouveau show. Ils seront sur deux étages avec trois batteurs. Je crois que la dernière fois, il y avait le batteur de Sepultura. Enfin, c'est quelque chose d'assez dingue et qui est assez inédit en fait sur la scène. Électro et aussi rock, parce que il y a un peu des deux en fait dans les sonorités. Donc pour finir la soirée en trance, je pense qu'il y avait pas beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'on est super content qu'ils puissent revenir, parce qu'on avait essayé l'année dernière déjà. Donc oui, ça fait partie pour nous des têtes d'affiche, des grands noms qu'on présente cet été.
Pour la citer encore une fois, Kate Tempest, que j'évoquais il y a quelques instants, on peut s'attendre de sa part à un show très politique, forcément, puisque la politique est au premier plan dans ses textes. Et quand on se souvient de sa chanson Europe is Lost, où elle voyait un petit peu l'extrême droite monter partout dans les pays européens, je pense qu'elle aura quelques mots à donner sur la situation de la France, même si là on enregistre cette discussion avec François entre deux tours des élections législatives, donc on ne sait pas exactement comment on va se faire manger exactement, mais aussi bien Kate Tempest ou bien celle qu'on va écouter dans un instant,
Backing Swash,
on aura des choses à dire très politiques.
C'est vraiment deux artistes, je pense, qui effectivement on n'a pas fait exprès de les choisir pour les présenter là, mais qui sont un peu militantes. Cahiers Tempestes et souvent sur quand même la tonalité de la vie économique et sociale britannique, et puis après un peu au-delà, comme tu disais, effectivement une vision un peu plus large sur l'Europe. Et Back X Wash, c'est une vision très américaine sur le racisme, sur la position des minorités, sans doute des femmes aussi. Je maîtrise pas absolument tous ces textes, mais en tout cas, il y a pour la dernière beaucoup de violence sur scène. C'est quelque chose d'assez marquant pour ceux qui prendront le risque de venir voir Back X Wash. Soyez attentifs du début à la fin, parce que c'est un show, je pense, assez unique. C'est vrai que, mais enfin, visuellement, c'est quand même assez dur. Elle se déguise un petit peu en sorcière, on va dire, hein, et puis elle a des passages où ça crie, hein, ça avec des vidéos aussi assez explicites. Ça va être un grand moment de hip-hop aussi, parce que c'est pour moi, ça fait partie des franges du hip-hop que j'aime beaucoup. Le hip-hop, pour moi, c'est un cri de rébellion, et là on est en plein dedans. C'est vraiment du hip-hop punk, et c'est celui-là que j'aime beaucoup, c'est celui-là que j'ai envie de présenter. Cahiers Tempestes, c'est aussi une version du hip-hop beaucoup plus soft, beaucoup plus poétique, donc c'est intéressant d'avoir un petit peu ce grand écart sur la même soirée. Et puis surtout d'avoir du hip-hop à la route du rock.
On écoute Back X Wash, à retrouver donc le 15 août au Fort de Saint-Père. Maybe it's disingenuous, or maybe it's the fact that I'm starting to realize that I don't love myself. I'm spending all night attempting not to judge myself. And if given another body, would have hung myself. I'm on the last rope, start to think that I had hope. Ducked my knees in the back row, can't believe I was that strong. For these last words won't need any adverbs, just the silence, cause I'm hearing them screaming, what the fuck, love? En résumé de la présentation de Fat Dog que vous verrez le vendredi 16 août au Fort de Saint-Père pendant la route du rock, vous avez choisi cette accroche, hein, des Un Rock, Fat Dog, la nouvelle sensation du rock britannique. On sait que le magazine qui a été mensuel, puis hebdomadaire, puis mensuel, et puis site internet, est très proche de la Route du Rock depuis leur début. Vous aviez commencé à peu près en même temps.
Ouais, je sais plus. Ils ont dû commencer avant nous, mais en tout cas, on est vite tombé amoureux. Et c'est vrai, c'est tout à fait naturel. On défend effectivement les mêmes choses, les mêmes esthétiques. En tout cas, sur le plan musical, parce qu'il n'y a pas que de la musique dans un rock, mais j'aime beaucoup aussi ce qui chronique en livre et compagnie, cinéma. C'est un magazine qui est extraordinaire, je trouve, pour sortir un peu des clous, quoi. Et donc, Fat Dog, c'est vrai que c'est sans doute, je pense, oui, une des révélations de l'année, espèce d'ovni électro-pop complètement déjanté, avec trois singles, trois tubes quasiment. Donc on attend avec impatience l'album. Et scéniquement, c'est foutrac et ultra dansant. Donc c'est là aussi, pour finir la soirée, ça va être la tuerie, quoi. C'est vraiment ce qu'il nous fallait pour la scène 2 à la Route du Rock. Peut-être que bientôt ils nécessiteront la scène 1. Mais voilà, il y a tout ce qu'on aime, le côté un peu sauvage, entraînant, dansant, un peu de folie, beaucoup de folie. Voilà, c'est incroyable.
Vous l'avez compris, avec François Floret, directeur et programmateur de la Route du Rock, on a choisi le parti pris des découvertes. Oui. On s'arrête un peu moins, évidemment, sur Blonde Redhead, que vous connaissez bien, j'imagine, vous qui avez déjà mis les pieds au Fort de Saint-Père, ou lu Les Inrocks, ou écouté Canal B, par exemple, ces 20 dernières années. Vous retrouverez aussi Metz, groupe Noise Grunge imparable. Etienne Dao ne sera pas si loin de Sable d'Or près des dunes quand il jouera au Fort de Saint-Père. Il connaît bien la région, il me semble, Étienne.
Oui, je crois qu'il habite pas très loin, ouais, sur le Sillon. Et puis ça serait marrant de le voir chanter justement Virus X, qui est quand même le titre de son dernier album, très 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 bon album d'ailleurs, qui parle de Saint-Malo. Et ça va être troublant pour lui, je pense, de parler, de chanter Saint-Malo à Saint-Malo.
Un point commun aussi entre un des concerts de la plage, Arte Concert de Bon Secours, c'est le groupe Aline, groupe qui a été un peu comme une comète dans la pop française, qui est apparu, a fait quelques tubes et puis s'est arrêté. Il y a une compilation qui est sortie tout récemment avec des morceaux inédits, c'est chouette. Et puis aussi la reprise de Tomber pour la France, ouais, d'Étienne Dao. Donc on pourrait imaginer des choses.
Ouais, et je vais être honnête, on n'a même pas fait exprès en fait de les programmer sur la plage le même soir que Dao. Alors j'espère qu'ils vont faire la reprise sur la plage. Mais c'est vrai qu'on avait envie de changer un petit peu aussi, avoir des choses un peu plus gay, un peu plus pop, pétillantes sur la plage. Et là, on est sur de la pop un peu yéyé par moment. Ça va être un joli moment à la plage Bon Secours.
Cette légèreté que tu évoques explique aussi la présence des Too Many Loulous, qui font un petit clin d'œil
well
au belge,
Too
Many DJs. C'est Lucille et Ludo.
Ouais, Ludo qui est le président de l'association Rock Tympan,
et
tout simplement.
Et qui font partie tous les deux des Kitchenettes, évidemment.
Et voilà, exactement. Et donc, il sera avec sa chérie, Lucille. Et ils ont plusieurs formules. Ils ont le groupe Kitchenettes et ils ont aussi les Too Many Loulous, pour quand ils font du B2B, on va dire, en vinyle. Et donc ils viendront mixer juste avant, une petite parenthèse plutôt yéyé sans doute et pop, comme ils savent bien le faire. Et ça va être une après-midi vraiment vraiment incroyablement agréable.
Pour les autres DJ et artistes, concerts, groupes à retrouver sur la plage de Bon Secours, vous irez encore une fois sur laroutedurock.com. Nous, on va partir du côté de Bar Italia, qui était une des belles surprises indie de ces deux dernières années. Certains ont pu les voir, certaines aussi à l'Antipode, il y a quelques mois de cela. Un groupe qu'il faut voir en live.
Je sais qu'il y a eu quelques échos pas forcément positifs sur l'Antipode. Il y avait des gens qui trouvaient qu'ils étaient un peu renfermés sur eux-mêmes. Après, c'était en début de tournée, je crois, et puis ils n'avaient pas fait sans doute beaucoup de scènes. Les échos sont meilleurs depuis, et puis l'album est tellement bon que de toute façon, je pense que rien que les chansons sur scène suffiront. L'attitude est secondaire, et puis on a l'habitude des groupes shoegaze qui regardent leur pompe. Donc c'est moins important et ce qui nous intéresse c'est le son.
Slow Dive ne sont peut-être pas beaucoup plus exubérants sur scène.
Ah, et je crois qu'avec le temps ils ont plus de sourire, j'ai l'impression, mais ils regardent peut-être un peu, oui, ils regardent un peu moins leur pompe.
Bodies à l'instant dans cette spéciale Route du Rock Collection été numéro 32 du 14 au 17 août du côté de Saint-Malo et du Fort de Saint-Père. On en parle avec le directeur et programmateur François Floret. Vous entendiez à l'instant, donc je le répète, Meat Bodies. On peut en parler un petit peu si tu veux, François, et évoquer aussi dans quelques instants les retours gagnants sans doute de certains artistes le même soir au Fort de Saint-Père. Meat Bodies, là on est plutôt dans un côté électrique.
Ah oui, là on est sur du garage californien, comme on aime bien en présenter, les Ty Segall et compagnie. ça fait partie des artistes évidents à la route du rock. Il nous faut des touches de garage, sinon c'est pas vraiment une route du rock. Et là, ils sortent un nouvel album qui est puissant, qui est parfois mélodique aussi, étonnamment. Et c'est un album assez déroutant pour ceux qui attendent que du tataboum. Il y a aussi des grands passages mélodiques. Et après, sur scène, je pense que ça sera assez efficace. Donc ceux qui vont se jeter dans la foule, ils auront ce moment-là pour eux le samedi soir dans le fort de Saint-Père.
Ils étaient de Sexy Boys déjà, les deux de R, quand ils ont sorti l'album Moon Safari. Je crois qu'ils sont encore aussi sexy. L'album, alors lui peut-être, c'est un des albums français les plus sexy de tous les temps, je crois, ce Moon Safari, inépuisable et chance incroyable, ils le rejouent en intégralité à la Route du Rock.
Voilà, et c'est vrai qu'ils ont entamé une tournée assez dingue depuis quelques mois, et vous avez peut-être pu voir certaines vidéos où ils ont une installation assez étonnante, une espèce de grand rectangle blanc avec des projections sur des écrans à l'arrière, beaucoup de lumière d'une grande classe. Donc à l'image de voilà des deux, hein, ils sont habillés de blanc, ils sont là, très très grande classe quoi, et avec cet album qui est juste monumental et que j'ai redécouvert un petit peu comme tout le monde, parce que forcément je l'avais mis un petit peu en sommeil depuis quelques années. Et il a pas pris une ride. Et ce qui est fou, c'est quand je le fais écouter autour de moi, des gens qui connaissent pas, des plus jeunes, ils sont là, ah, mais je connais Sexy Boy ou plein d'autres titres de l'album. C'est des morceaux qui sont devenus des grands classiques qui ont été soit récupérés pour à la télé, des téléfilms. Enfin, il y a toujours une bonne utilisation de ces tubes. Et donc c'est un énorme honneur en fait de les recevoir, parce que ils font pas énormément de dates en France, et je sais qu'ils aiment Saint-Malo, ils aiment la route du rock. Ils étaient déjà venus une année avec Phoenix, ils avaient même joué le titre de Virgin Suicide avec le chanteur de Phoenix sur scène. C'était une première mondiale. Ils s'étaient retrouvés là-bas, les Versaillais, et donc là il n'y aura pas Phoenix, mais il y aura juste R qui revient. Et c'est oui, on a rêvé quand ils ont dit oui, parce qu'ils hésitaient entre nous et le Japon, je crois, de mémoire, sur des propositions financières complètement folles, et ils ont préféré rester en France, venir à Saint-Malo. Donc on est tellement fiers d'avoir cette date quasi unique, je crois, dans le Grand Ouest.
Le samedi 17 août sera un petit peu une soirée révisée vos classiques, puisque en plus de R qui jouera Moon Safari, oui, le Suédois José González, lui, jouera un album qui a 30 ans, 20 ans.
Vinir, ouais, qui est ouais, son grand classique, effectivement. Donc là, on est sur vraiment une autre esthétique, hein, en début de soirée, quelque chose de beaucoup plus folk, hein, évidemment. Et avec sous le soleil qu'il y aura au mois d'août, ça va être un grand moment.
On va terminer cette brève balade entre les remparts de Saint-Malo et puis les douves du fort de Saint-Père. On évoquait donc la Route du Rock collection était la 32e, et on devait terminer, François, avec ce qu'on va écouter, le duo. Je prononce Dame Area, alors je n'ai jamais su comment on le prononçait, comme donne-moi de l'air, laisse-moi passer. Bon, si c'est pas comme ça qu'on le dit, je pense que ça leur va bien, la prononciation.
On pourra leur demander, mais c'est Dame Area, moi je le prononce comme ça, je prends pas trop de risques.
En tout cas, un duo qui n'a de cesse que de faire bouger les corps avec leur musique électronique assez oppressante parfois, mais qui laisse aussi danser, et puis des textes toujours assez politiques eux aussi.
Oui, et je te le disais en off tout à l'heure, c'est vrai que c'est un groupe, moi j'ai toujours eu du mal un peu pendant quelques temps à avoir envie de les programmer, et là j'ai pu écouter leur dernier album qui est d'une sauvagerie sans nom, et là on a je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en tout cas chez moi, et j'avais envie de voilà d'avoir ce moment là pour clôturer les scènes du fort de Saint-Père, parce qu'il y aura un after après dans les bois avec plus d'électro pour danser, mais j'avais envie de ça pour finir vraiment sur la rage, et là le dernier album, je crois savoir qu'ils l'ont enregistré dans les conditions d'un live. En tout cas, ils voulaient retransmettre vraiment au maximum l'énergie qui donne en live sur cet album. C'est ce qu'ils disent en tout cas en interview, et c'est réussi, parce que c'est brut, c'est sauvage, C'est sans fioriture.
On va se quitter avec François et ce morceau-là de Dame ou Dame Aria. Et on évoquera aussi, bien sûr, une expo sur la French Touch et du graphisme toujours efficace et qui parle encore aujourd'hui. Etienne de Crécy, Super Discount, hein, le patron est devenu fou. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce clip-là, il est encore fou. Mmh. Et puis, bien sûr, une conférence de Christophe Bro. Qu'est-ce que serait la Roue du Rock sans une conférence de Christophe Bro, avec les emprunts qu'ont pu avoir les musiciens de la pop anglo-saxonne vers les musiques du monde. Alors tout évidemment, on se rappelle des Beatles en Inde, mais il n'y a pas que ça.
Ouais.
Il y a les Vampire Weekend en Afrique aussi.
Oui. Et ça le passionnait. On échange beaucoup avec Christophe, et c'est vrai que là, je lui donne carte blanche. Il avait envie de parler de ça, et je trouve ça chouette parce que on va découvrir sans doute plein de trucs. Moi, le premier, et voilà, on est là pour ça.
C'est bien le principe, restez curieux, allez à la Route du Rock du 14 au 17 août, on retrouve toute la prog sur larouteduroc.com. Merci François, bon été.
Merci
et bonne Route du Rock évidemment.
Salut.
Soit en charge des costumes, de la lumière, des décors ou encore de la régie générale. On ne connaît pas leur nom, on ne les voit jamais sur le plateau d'un théâtre quand le rideau est levé. Pourtant, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, au Festival d'Avignon et partout ailleurs, sans leur travail, rien ne pourrait avoir lieu, en tout cas pas de manière aussi riche, subtile et harmonieuse. Cet été dans De Boule Vanille, Soisy Globaille rencontre des hommes et des femmes qui exercent des métiers invisibles du spectacle vivant et qui s'expriment sur leur carrière et ses évolutions, nous parlent de leur bonheur ou de souvenirs moins joyeux. Premier épisode aujourd'hui avec Tuc Dual Trémel qui nous dit tout sur l'étendue de ses fonctions au TNB.
Je suis régisseur général plateau ici au Théâtre National de Bretagne. Je m'occupe plus de la partie plateau, c'est-à-dire de la partie des décors, le levage pour lever, de la lumière, de la draperie, des décors. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Soit on utilise des perches qui existent dans le théâtre, soit on utilise des moteurs qu'on rajoute au grill. Et voilà, tout ça, il faut une étude de charge, etc. Il y a des choses un peu techniques à voir pour voir si c'est possible et qu'on fasse ça en sécurité surtout. Mais je n'ai pas fait que ça dans ma vie, évidemment, parce que j'ai un passé d'intermittent. J'étais 20 ans intermittent, beaucoup sur la route, beaucoup en tournée. J'ai commencé comme technicien lumière, électricien. J'ai bossé pour Spectaculaire, entre autres, pour des petites compagnies. J'ai commencé, en fait, beaucoup à faire plusieurs choses en même temps. J'ai travaillé pour des boîtes de prestations, dont Spectaculaire à Rennes. Puis j'ai fait aussi en même temps du travail avec des petites et moyennes compagnies. C'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, j'ai rencontré le TNB. Ensuite, j'ai rencontré d'autres compagnies. Et en fait, après, j'ai commencé à travailler sur des plus gros spectacles, de plus en plus gros, jusqu'à devenir régisseur général. Donc, je suis parti de la régie lumière, j'ai fait aussi de la régie plateau. Et je suis passé régisseur général. Le régisseur général, qu'est-ce que c'est ? Oui. Eh bien, le régisseur général, en fait, il est un peu au centre, techniquement, d'une création. En fait, lui, il discute évidemment avec l'équipe technique. Il discute aussi avec le metteur en scène. Il discute aussi avec la production. En fait, il fait un peu le lien entre ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il traduit les envies du metteur en scène au niveau technique. Mais il doit aussi faire attention au budget. Donc, il parle aussi avec la production. Il doit rendre, en fait, les envies d'un metteur en scène et d'un scénographe possible et tournable.
J'avais l'idée qu'un régisseur, c'était celui qui résolvait tous les problèmes de dernière minute auxquels on n'avait pas pensé et qui tout d'un coup s'imposait et aïe, comment fait-on ? On appelle le régisseur.
C'est une partie du métier, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les impondérables. Mais en fait, la grosse partie du métier avant, c'est de gérer avant ça. C'est-à-dire qu'on fait, on prépare le spectacle. Je vais prendre l'exemple d'une tournée, par exemple. On prépare tout notre matériel, etc., le transport en camion. On communique beaucoup aussi avec nos homologues de ville en ville. Et on prépare tout pour qu'en fait, on n'ait plus que les impondérables à gérer. C'est-à-dire tout est normalement bien préparé, bien calculé, les plannings, la place de chaque objet de décor, de chaque lumière, de chaque objet sonore. Ça, on le prépare beaucoup en amont, sur plan. On fait les plannings aussi en amont, on communique. Et ensuite, quand on arrive dans la ville, donc on décharge le camion, le plus facile reste à faire, c'est qu'il faut installer tout ça dans la salle. C'est toujours une salle différente. Le décor reste le même, mais c'est une salle différente.
De taille différente,
exactement. Il y a une adaptation nécessaire qu'on fait en amont, sur plan. Et ensuite, une fois que le spectacle se monte, etc., évidemment, il y a la vie dans la vraie vie et la vie sur les plans. C'est jamais la même chose. Et il faut toujours s'adapter. Mais en général, on fait quand même le maximum du travail en préparation. Et ensuite, on s'adapte avec des choses qu'on n'avait pas forcément vues sur plan, ou peut-être des choses qui ont changé entre-temps. Des adaptations de planning aussi. Il y a besoin de travailler plus une scène que l'autre. Selon l'environnement et la place des lumières, il faut travailler plus ou moins telle scène parce que les lumières ne sont pas à la même place. Donc évidemment, il y a des ajustements comme ça. Mais en fait, le gros du travail, quand même, c'est beaucoup en amont, beaucoup en préparation. Puisqu'on est cerné, notre pire ennemi, c'est le temps. Puisque, en fait, on a, par exemple, le dernier spectacle que j'ai tourné, c'était un J-2. C'est-à-dire qu'on arrive 2 jours avant le jour du spectacle. Et il faut que techniquement, on ait réussi à monter tout le spectacle au niveau technique pour le jour J, où les comédiens arrivent, et le soir on joue à 20h. Et quoi qu'il arrive, on jouera à 20h. Donc on n'a pas le droit à l'erreur.
Dans Les métiers invisibles du spectacle vivant, une série d'entretiens proposée par Soisig Le Bail, Tugdual Tremel, régisseur général plateau OTNB, nous parle à présent de sa formation, des qualités nécessaires à l'exercice de sa profession, des tournées et de son goût pour le théâtre.
Ma première formation, j'étais en fac de lettres. Déjà, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai fait beaucoup de petits métiers. Ensuite, j'ai fait un CAP électricien. Ensuite, j'ai fait un CAP technicien du spectacle. Ensuite, j'ai appris beaucoup de choses sur le tas. J'avais déjà une bonne formation de base. Ensuite, j'ai fait des formations spécifiques, levage, etc., des formations de sécurité.
Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être un bon régisseur ?
Il faut avoir une qualité d'écoute parce que c'est un métier qui est très humain, qui est très technique évidemment, mais qui est très humain aussi puisqu'on a beaucoup de relations avec plein de monde. C'est-à-dire on a des relations avec le metteur en scène, on a des relations aussi avec l'équipe technique, avec la production, etc. Donc il faut être à l'écoute, il faut savoir aussi défendre son point de vue. Et donc, il faut être dans la communication et il faut vraiment avoir des qualités humaines parce qu'on est vraiment au centre un peu de l'exercice. Il faut parfois dire non, il faut parfois dire oui, il faut parfois faire en sorte que ça marche alors que ce n'était pas prévu au départ. Donc, il faut aussi avoir des capacités d'adaptation là-dedans. Il faut être aussi rigoureux parce que, mine de rien, il faut quand même construire un planning, il faut aussi se tenir un budget, il faut aussi organiser les transports. Donc, il faut quand même avoir une certaine rigueur, une ponctualité, etc. Mais il faut vraiment avoir une bonne faculté d'adaptation et aussi, je pense, des qualités humaines. Chaque personne différente, en fait, c'est ça qui est assez, assez génial dans ce métier, c'est qu'en fait, on fait le métier aussi comme on est. C'est-à-dire que on peut être humainement différent et faire le métier différemment. Moi, je ne travaille pas de la même façon qu'un autre régisseur général, lui non plus d'ailleurs, et ça marche quand même. Donc, il n'y a pas de recette. Il faut juste, je pense, être à l'écoute et je pense que chacun fait son travail à son endroit et aussi comme il est. Évidemment, il faut avoir du calme puisqu'il ne faut pas montrer qu'on panique, il ne faut pas montrer non plus une exaspération qu'on peut avoir parfois. Mais en fait, ça fait partie du métier, donc il n'y a pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'on prend le projet et on l'amène jusqu'au bout. Donc évidemment, il y a des passages plus ou moins difficiles. En général, à l'approche d'une première, on sent que la tension monte un petit peu, surtout quand on n'est pas prêt, ça peut arriver. Mais de toute façon, comme je dis toujours, le spectacle va avoir lieu. Ça va jouer, il va y avoir une première, puis après on va partir en tournée, donc on va y arriver.
Qu'est-ce que vous préférez, la tournée ou bien la stabilité dans le théâtre au TNB ?
C'est une bonne question, je pense qu'il y a un temps pour tout. J'ai beaucoup aimé tourner, ça fait partie de ma vie pendant presque 20 ans, et c'est un bel exercice, puisqu'on doit toujours s'adapter, on doit toujours discuter avec les gens, et c'est dans la rencontre en fait que se fait ce métier-là, c'est beaucoup de rencontres. Et c'est assez chouette ça, de partager des choses, de faire aussi un exercice assez éphémère, assez court dans le temps, mais ensemble. C'est-à-dire qu'on doit construire une équipe, on doit construire un projet ensemble sur 2-3 jours. Donc évidemment, il faut trouver les qualités de chacun, il faut vraiment toujours aller de l'avant, il faut être moteur aussi, c'est assez chouette. On échange beaucoup, donc c'est beaucoup de rencontres très sympathiques. Et j'étais très bien accueilli quand j'étais en tournée. C'est aussi ça que j'essaie de rendre quand je suis là au TNB. Donc c'est aussi le juste retour des choses. J'apprécie aussi cette stabilité. Ma famille aussi l'apprécie. parce que c'est quand même ça qui est important aussi. On est beaucoup partis. Et c'est aussi chouette d'avoir la stabilité pour pouvoir profiter des choses tranquilles de ses enfants, de sa femme, de faire des activités un peu plus calmes. Et aussi au niveau de la fatigue, parce que mine de rien, être un régisseur en tournée, ou un régisseur général, même un régisseur lumière, son ou plateau, c'est quand même assez prenant. On n'a pas beaucoup de place pour d'autres choses une fois qu'on est sur la route, donc ça fait du bien quand ça s'arrête aussi. Une grosse différence avec comme un des mortels, on va dire, qui reste à la maison. Souvent c'est la compagne ou le compagnon qui reste à la maison, qui gère un peu le quotidien, et nous quand on arrive on a des images plein la tête, on a parlé avec beaucoup de gens, donc il faut descendre tout ça et se remettre dans une vie quotidienne. C'est un exercice qui n'est pas facile, il faut descendre et puis il faut assumer aussi sa charge, hein, c'est normal. C'est plus rapide avec le temps, avec l'expérience, on revient plus facilement. Mais il y a un temps, enfin moi ce que j'appelle un temps normal de descente et de retour à la vie classique, on va dire.
Vous avez toujours aimé le théâtre ou bien vous avez découvert le théâtre avec ce métier ?
J'ai découvert le théâtre avec ce métier, la danse aussi. Et la mise en lumière de sites, etc. Moi j'étais quand même assez cultivé, j'aimais lire, mais j'allais pas beaucoup au théâtre, j'allais au cinéma. C'est vrai que ça a été une découverte assez importante. J'aime toujours le théâtre évidemment, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi, hein. C'est pour servir un metteur en scène ou des comédiens ou des chorégraphes. C'est pas devenu une passion, je dirais pas ça parce que c'est mon travail quand même, mais oui, j'aime toujours le théâtre et j'y vais avec plaisir.
Et les souvenirs de Tugdual Tremel, ils sont bons ou mauvais ?
Je n'ai pas vraiment de mauvais souvenirs en fait. J'ai des souvenirs de stress assez énormes parce qu'on a beaucoup de responsabilités quand même quand on est régisseur général, c'est-à-dire qu'on fait les choses sur plan, etc. On a toujours cette appréhension de savoir est-ce qu'on s'est trompé, est-ce que ça a passé, etc. C'est pareil avec l'expérience, on apprend à se détendre un peu là-dessus. Mais parfois, on est un peu stressé parce qu'on se dit est-ce qu'on a oublié quelque chose ou pas, est-ce que ça a passé. En général, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, puis
on
est accompagné.
Vous avez oublié des fois des choses importantes ?
Non, ça arrive rarement, mais par contre, on peut se tromper. Et on peut aussi être trompé, penser qu'on va nous accueillir d'une certaine façon, puis en fait, être un peu déçu parce que ce n'est pas de la façon dont on nous avait promis qu'on nous accueillerait, qu'on nous accueille. C'est arrivé parfois dans des salles où le spectacle d'avant n'était pas démonté. Donc avant de commencer, avant de décharger le camion, on a déjà 4 heures de retard. Quand on tient un planning avec un jeu, forcément, 2 jours après, où on joue à 20 heures et cette date-là ne peut pas se déplacer, évidemment, on commence un peu à stresser. Mais le but du jeu, c'est de ne pas le montrer, d'essayer de prendre les choses comme elles sont, puis d'avancer et d'avoir l'équipe avec soi, surtout, pour que ça se passe bien. Du mieux possible.
Et le bonheur intense ? Ou la fierté intense ?
Ouais, c'est arrivé, mais plusieurs fois. Moi, je suis très fier à chaque fois d'arriver au bout d'un projet et puis qu'il y ait une première qui ait lieu, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est assez chouette d'arriver au bout d'un projet comme ça, tous ensemble. Et des fois, c'est des grosses équipes. Hein. On est 25-30 à travailler sur un spectacle. Et quand on arrive au bout des choses et que ça y est, on livre le spectacle, c'est un sentiment de voir accompli quelque part. Et c'est assez chouette parce que... Alors, je ne dis pas que j'ai aimé tous les spectacles sur lesquels j'ai travaillé. Évidemment, il y a des choses plus agréables que d'autres. Quand on travaille avec des amis ou des camarades, où il y a un peu moins de pression aussi, c'est déjà plus agréable. Mais en tout cas, quand on arrive à la première et qu'on sait qu'on va aller sur la route après... Ouais, c'est du bonheur, ouais, c'est sympa.
Allez, donnez-moi un exemple.
C'était avec la compagnie Engrenage, et on n'avait pas beaucoup de sous pour faire cette pièce. C'était un décor tout blanc, c'est histoire courte, version longue, voilà, je cherchais le mot. Et j'étais dessus avec des camarades, Marie Houdin, Franck Guison et Yann Duclos. Et on avait réussi à faire ce spectacle avec peu de moyens. Et en fait, on est content parce que derrière, ça a tourné. Et quand il est sorti ce truc-là, on était vraiment très fiers, et très très contents.
Combien de gens travaillent avec vous au TNB ?
On est donc 4 au service plateau, plus un apprenti, ce qui est toujours cet aspect donc, de transmission aussi qui est important au théâtre. Et puis évidemment, il y a toute une équipe d'intermittents, du régisseur au machiniste et au cintrier, en passant par les cintriers, qui viennent nous aider avec leur spécialité, leur spécificité chacun. Donc on est beaucoup, hein, on travaille. Alors le noyau dur, évidemment, c'est les 4 personnes qui sont permanentes. C'est une façon de gérer un service. Et puis en fait, il y a la gestion coup par coup aussi, de spectacle en spectacle, l'équipe change. Donc voilà, il faut aussi organiser ces choses-là. Le plus difficile, c'est de transmettre. C'est-à-dire, nous, on fait toute la préparation, mais cette préparation elle va rester lettre morte si on n'arrive pas à la transmettre d'une bonne façon. Donc après, c'est la transmission, de sonder des informations, les points importants, pour que quand la compagnie accueillie arrive, en fait, tout se passe bien.
Pour terminer cette rencontre, Tugdual Tremel, régisseur général plateau OTNB, nous parle des évolutions de son métier.
On travaille beaucoup maintenant avec l'informatique. On a différents logiciels de planification, mais aussi d'organisation, de liste de matériel, etc. Parce qu'on a énormément de matériel. Le TNB est comme un gros, gros théâtre. On a 4 salles, beaucoup de matériel. Il y a aussi une histoire derrière, donc on a récupéré beaucoup de matériel des créations. Donc évidemment, on tient des registres qu'on espère un jour. Mais on a énormément de matériel, donc il faut évidemment l'informatiser pour que ce soit plus facile pour l'organiser. Ça a changé quand même pas mal, parce qu'avant on faisait ça sur papier, maintenant voilà, on travaille quand même beaucoup sur ordinateur.
Est-ce que vous récupérez du matériel pour le réutiliser ?
Eh bien, de plus en plus. C'est une volonté de la part du théâtre, parce qu'en fait, évidemment, c'est une volonté un peu aussi induite par l'aspect économique des choses. On est obligé de récupérer des choses pour des raisons économiques, évidemment pour les raisons écologiques, mais les raisons écologiques ne sont pas primordial, on va dire, c'est surtout un aspect économique maintenant qui prime. Évidemment, on récupère du matériel, ouais. On récupère la plupart du matériel qui tourne. Ce matériel doit rester disponible pendant un certain temps, puisque le spectacle est susceptible de retourner, de retourner sur la route, retrouver des stades de spectacle. Et au bout d'un moment, quand ce spectacle est un peu abandonné, qu'on décide qu'on ne va pas le tourner, tout le matériel est récupéré. Et c'est à autre chose.
Est-ce que ça a beaucoup changé au fil de ces années pour vous ?
Oui, ça a énormément changé, je trouve. On se faisait la réflexion l'autre jour avec les camarades, surtout sur l'aspect sécurité, et ce qui est plutôt pas mal, parce qu'au début que j'ai commencé, on était moins à cheval là-dessus. Maintenant, c'est devenu une part importante de notre travail, et c'est tant mieux. Les gens travaillent casqués, avec les bonnes chaussures qu'il faut, les gants, etc. On n'est jamais à l'abri d'un accident, mais on essaie quand même de s'améliorer là-dessus. Et en fait, il y a eu quand même beaucoup de progrès là-dessus. Mais je crois que c'est général à tous les corps de métier.
Est-ce que votre métier était très masculin et qui se féminise ?
Oui, c'est toujours un métier très masculin. Ça change encore, et heureusement. Ça change pas assez vite à mon goût, parce qu'on... Alors ça dépend des endroits et des services. En lumière, par exemple, ils arrivent à avoir... beaucoup de collègues féminines qui travaillent. Au niveau du son aussi, au plateau à Rennes, parce que c'est spécifique un peu au bassin rennais, on a moins de femmes qui viennent travailler. Je ne connais pas la raison. En tout cas, j'étais dans d'autres théâtres à Paris, par exemple, où les équipes sont beaucoup plus féminines. C'est en train de changer, et tant mieux.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un que votre métier intéresse ? Que doit-il faire comme formation ?
Ça a beaucoup changé, parce qu'avant, on apprenait un peu sur le tas, on arrivait à se débrouiller, à rentrer comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est très institué. Il y a des très bonnes formations. Il y a le CFPTS à Paris. Il y a aussi STAF à Nantes. C'est les deux formations les principales. Nous, on accueille les apprentis de ces deux écoles-là, en tout cas. Il y a aussi des formations plus courtes sur un an qui existent dans ces deux écoles. Il y a aussi Prisme, par exemple, qui introduit un peu les gens dans le milieu du spectacle à Rennes. Évidemment, tout ça, il faut que ça aille plus loin. Et donc, en général, les gens continuent à aller vers une formation, soit un CAP, soit un Bac plus 2 à Paris ou à Nantes.
Merci à Tugdual Tremel, régisseur général plateau au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Nous l'entendions dans le premier épisode de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant, proposé par Soisy Globaille tout cet été dans l'émission De Boule Vanille sur Canal B. Émission qui se termine avec le 32e épisode de Morceaux de Choix, proposé par Ronan Chaplin. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui nous dit tout sur le morceau qui lui a fait complètement perdre la tête. À bientôt pour une nouvelle émission de Boule Vanille sur Canal B. Ciao.
Morceaux de
bravoure.
Hacher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Morceau. Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau
choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Le morceau que j'ai choisi s'appelle En el Medio. C'est un titre qui fait partie d'un disque qui s'appelle En el Medio aussi, et qui est un disque d'un artiste qui s'appelle Ousmane Danejo. métier, on a des fois des choses bizarres avec les disques, et celui-ci est particulièrement gratiné. Il est sorti, je vais dire, 2004-2005, sur un label qui a disparu 15 jours après sa sortie. Donc le disque a disparu aussi. Et nous, on était tombés, parce qu'on est, deux à travailler, on était vraiment tombés gaga de ce disque. Mais bon, voilà, on avait réussi à récupérer un disque pour nous, à en vendre quelques-uns, et puis, parti. Il a refait surface, plusieurs années après, en 2012, sur un autre label, et avec un autre distributeur, et ce distributeur met la clé sous la porte. Et on le voit réapparaître il y a 3 ans, et on se dit, c'est pas croyable, il faut qu'on le reprenne, il faut qu'on le refasse découvrir.
Yo que creía estar solo en esta ronda, solo para escribir la historia.
Et dans ce disque, il y a un morceau qui est complètement différent, qui a une connotation assez forte, Brésil, Argentine, enfin Amérique du Sud, et c'est ce morceau, En El Medio, qui est une sorte de mouvement perpétuel, qui se déroule de façon très douce, très calme. C'est un morceau dans lequel on est bien et qu'on a envie d'écouter, de réécouter encore. Ousmane Danejo, c'est le deuxième nom d'un musicien qui s'appelle François Glowinski. Donc c'est un gars du Nord qui est arrivé avec les familles polonaises qui arrivaient pour travailler dans les mines, dans les aciéries, etc. Et il est devenu musicien. Un jour, il est parti au Sénégal et il est tombé complètement fou, amoureux de ce peuple, de la culture et de la musique. Et donc le disque reflète cette immersion qu'il a eue complètement. Il a changé de nom. Il a vécu là-bas beaucoup. Et ils se font complètement dans l'esprit de la musique mandingue, la musique d'Afrique de l'Ouest.
Una gota de sangre en el medio, en el medio. Una gota de sangre, solo roja. Una gota de sangre en el medio.